With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Hello, hello, bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode du Fauteuil Touchdown Panthers. Et voilà, ça commence comme ça. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Fauteuil. Oui, il y a eu un tout petit temps de latence parce que j'avais oublié de brancher le micro. Et du coup, j'espère que ça marche bien. N'hésitez pas à me dire justement si tout est OK. Et bah oui, c'est très bien puisque j'ai moi-même le retour trop fort dans mon ordinateur. Bonjour et bienvenue à tous dans un nouvel épisode du Fauteuil. Vous avez l'habitude, le petit lien que je balance sur les réseaux sociaux. Et je suis à vous tout de suite, comme ça nous serons évidemment plus nombreux, parce que plus on est de fous, plus on rit. Nous sommes de retour de Londres, enfin je suis de retour de Londres, il y a encore Sébastien et Raphaël que j'ai laissés là-bas, et qui sont actuellement en train de suivre le Panthers Buccaneers en tribune de presse. Il y a 33 à 10, je vous le dis tout de suite, pour les Panthers, au moment où nous parlons, ils viennent d'inscrire un touchdown, il reste un tout petit peu moins de 15 minutes à jouer. Donc ça semble plutôt bien engagé pour cette équipe de Carolina. Et ah bah voilà, je vois qu'on voit encore mes genoux, c'est le drame. Je n'ai pas eu le temps de faire la mise au point correctement, mais vous voyez donc, j'ai chaud. Bonjour à Clément, François, Coro Couples, Red Skull, Coro Couples, oui, Orange Crush, Pierre 38, bonsoir à Gus, à Rammstein Bob et à tous. Bonjour à Quentin, bonjour à tous ceux qui arrivent. Ouais, j'ai eu le bon match de Londres, en effet. Salut à Isias. Oui, attention, attention au All Caps, c'est Curtis Samuel qui a marqué le touchdown. Donc bonjour à monsieur, aussi à monsieur Podel. Bienvenue à Grumpy, bienvenue à tous dans le Fauteuil. Je le disais donc, retour dans le canapé habituel pour moi, la tribune de presse, c'est fini pour cette année, mais j'étais content de la retrouver, hein. J'étais pas allé à un match depuis un petit moment, et ça fait toujours plaisir. Le thème de la semaine, je vous le dis tout de suite, la semaine dernière, oui, Raphaël prend un match un peu moins intéressant sur ce coup-là. Bon, après, il avait quand même fait le Super Bowl du 28-3, hein, donc on va pas le plaindre non plus, c'est un peu comme moi. Je le disais, le thème du jour, la semaine dernière dans la tribune de presse, alors j'ai réécouté après coup, hein, parce que c'était quand même très bruyant, et c'est vrai que vous m'entendiez bien, c'est un miracle. Donc, le thème du jour, la semaine dernière, on avait fait les 5 meilleurs matchs à Londres, et bien cette semaine, on va faire les 5 pires matchs à Londres, comme ça on aura fait un petit peu tout ce qui se passait. Les affiches du jour, évidemment, seront aussi au programme, les cotes de notre partenaire Unibet aussi. Ça me rappelle que notre partenaire pour cette émission, évidemment, c'est Unibet, les meilleures cotes sur la NFL, c'est chez Unibet, n'hésitez pas à aller y faire un tour, je vais vous mettre le lien, regardez tout de suite, comme ça c'est un petit lien spécial, ils sauront que vous venez de notre part, n'hésitez pas à vous inscrire si vous n'êtes pas inscrit, n'hésitez pas à parier et on vous donnera évidemment les meilleures cotes, et si vous n'êtes pas encore inscrit, sachez que si vous êtes inscrit, vous pouvez regarder les matchs NFL gratuitement, donc n'hésitez pas, il suffit d'avoir un compte crédité. C'est toujours évidemment un bon plan. Si vous souhaitez, et je vais finir les présentations là-dessus, si vous souhaitez nous soutenir, vous pouvez également faire un petit tip sur Tipeee et le lien est sur le chat aussi au moment où je vous parle. Voilà pour le programme à peu près du jour. Vous savez tout. J'espère que vous allez bien. Bonsoir à Kevin, à Nicolas, à Thomas qui nous ont rejoints, à Maxime et à Loïc, notre développeur, évidemment, qu'on salue et à qui on fait un grand coucou. Le jeu ultra dur. Alors, nous sommes... Alors oui, on me dit, mon t-shirt est sympa. J'ai essayé de me mettre dans le ton, du coup. Petit retour, on parlera des pires matchs de l'histoire de la NFL à Londres. Celui de 2009 entre les Patriots et les Buccaneers en fait partie, c'est un petit spoiler. Et à l'époque, c'était, j'étais en spectateur. Et voilà, ça fait un des petits souvenirs. Donc, je suis dans le ton des matchs à Londres. Pire match à Londres, il y a 2 ans, Ravens Jaguar, fans des Ravens, dit Rammstein Bomb. Je vais pas spoiler, mais il se pourrait que celui-là soit dedans aussi. Je disais donc le jeu ultra dur. Alors, il continue le jeu ultra dur parce que personne n'a trouvé la semaine dernière ce qui se passe avec notre joueur mystère suivant. Je rappelle le principe du jeu. Pour gagner, vous devez envoyer la bonne réponse par mail et uniquement par mail. Pas de réseaux sociaux, pas de chat. La bonne réponse, c'est par mail concours@touchdownactu.com. Le lien est dans le chat. Je vous donne un indice en début d'émission, un autre en fin d'émission. Le premier à envoyer la bonne réponse gagne les free bets. La cagnotte, elle augmente toutes les semaines. Oh là là, Jameis Winston, il est encore en train de faire du magnifique. Donc, je disais, les free bets augmentent toutes les semaines. On était à 50 la première semaine, 100 la semaine dernière. On passe à 150 parce que personne n'a trouvé pour le moment. Donc, 150 euros cette semaine. Je vous rappelle les indices des semaines précédentes. MVP, 6 maillots, sur la pochette et comme Brady. Pour l'instant, personne n'a trouvé. Je rajoute un indice supplémentaire qui est Iceman avant le Iceman. Je vous laisse deviner. Je vous rappelle concours@jeanactu.com pour la réponse. Pendant ce temps, il y a un énorme face mask sur Jameis Winston qui, pour une fois, peut expliquer qu'il était un peu sonné, qu'il ait fait n'importe quoi. Les questions pour commencer si vous le voulez, sinon j'enchaîne sur le match du jeudi. N'hésitez pas si vous avez des questions, j'y réponds. Il est 18h07. Si vous avez des questions sur tout, évidemment en général, sur Londres, sur le retour de Londres, n'hésitez pas, je ne l'ai pas dit, il y aura un fromage évidemment à la fin. Nous sommes des Français raffinés hein, et pas des Anglais, donc nous avons du fromage à la fin quand on est en France. Dan Quinn est viré quand pour abréger les souffrances de Greg? C'est une bonne question. La rumeur, du coup, on l'a publiée sur le site tout à l'heure, ce serait avant la semaine 9, qui est leur semaine de repos. Si ça ne s'améliore pas pendant les semaines à venir, on rappelle qu'ils jouent les Cardinals aujourd'hui, donc a priori, ils sont quand même censés... faire quelque chose contre les Cardinals aujourd'hui. Derrière, ils jouent Seahawks et Rams, donc ça va être très compliqué ces deux-là. S'ils ne se rétablissent pas aujourd'hui contre les Cardinals, a priori, Dan Quinn, ça semble quand même être compliqué et ça risque d'être la porte. Rammstein Bomb, Winston, c'est comme Xavier Dupont-Ligonnès, on croit voir quelque chose, mais non. Ouais, sauf que Winston, il n'y a quand même pas de... Il n'y a pas d'espoir, quoi. Jameis Winston, il avait quand même été intercepté sur la première passe du match. Encore une fois, je rappelle, on en est à 34-10 pour les Panthers au moment où je vous parle. Christian McCaffrey ridiculise la défense des Buccaneers. Jameis Winston ridiculise l'attaque des Buccaneers. Et normalement, on est à peu près dedans. Il a perdu 3 ou 4 ballons et touchdown pour Buccaneers au moment où je vous parle. Ça sauve un peu la mise, mais ça semble quand même encore très loin. C'est Cameron Brate qui marque le touchdown. Pour ceux qui l'ont dans l'équipe Fantasy, 3 interceptions plus 2 fumbles. Merci Guillaume de rappeler ça. Comment c'est Tottenham par rapport à Wembley? Question de Roach Crush. C'est mieux et c'est moins bien en même temps. Non, je pense que d'un point de vue supporter, ça doit être mieux parce que le stade est plus petit, il est plus intime. Et je crois, alors j'ai pas honnêtement, alors ça va faire un peu enfant gâté, mais du coup, on s'est pas beaucoup baladé dans les coursives grand public entre guillemets parce qu'on arrive très en avance. Dans le stade, c'est-à-dire avant l'ouverture au grand public. Donc en fait, on va dans la tribune de presse, etc. Et donc on voit pas en fait là où les gens se déplacent. Mais de ce que j'ai entendu dire, il y a beaucoup plus de stands pour la bouffe, etc. Donc a priori, c'est plus à l'aise à ce niveau-là. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et après, en termes d'installation, c'est quand même du très très lourd au sens où le stade est magnifique. Moi, j'avais jamais vu ça. J'en ai pas parlé. J'ai pas pu en parler dans le fauteuil de la semaine dernière parce que je l'avais pas encore vu. J'étais très étonné au moment d'un touchdown où il y a eu des jeux de lumière en fait. Mais du coup, on est habitué dans les stades à Wembley en tout cas, et dans les autres, sur les 3 Super Bowls que j'ai vus, j'ai pas cru voir ça sur les touchdowns. Donc, on est habitué à ce que la lumière elle soit blanche, constante. Et en fait, là, sur les touchdowns des Raiders, ça faisait des flashs et la lumière avait l'air plus sombre, plus claire. Enfin, voilà, on se serait cru dans une salle de basket, en fait. Ça, c'était assez impressionnant. Il y avait vraiment un côté plus arena, grande salle, que stade quasiment à un moment. Donc ça, c'était quand même pas mal. Mais oui, la Fabrice le dit, côté sud, c'est énorme pour Tottenham. Il y a cette tribune sans niveau, donc un mur sur tout le virage qui est impressionnant. C'est un très bon stade. Moi, mon petit bémol, c'est très personnel, c'est pour les installations presse, donc ça concerne pas grand monde. Mais mon petit bémol, c'est pas tant. C'était très très bien pour nous. On est très bien installé, c'est très bien foutu. Il y a pas de souci à ce niveau-là. Mais je trouve ça presque un tout petit peu trop, en fait, un tout petit peu trop technologie. Si vous voulez, la salle de presse pour les journalistes, c'est une sorte de lounge avec des canapés en cuir vert, des néons arrondis, machin et tout ça. Et c'est bien, c'est très moderne, c'est sympa et tout. Hein. La bouffe est bonne, tout ça. Ils avaient des choux-fleurs grillés, je crois qu'un peu au curry et tout, c'était super bon. Mais par contre, leur cheesecake était immonde. Mais voilà, ça faisait un peu too much. Et ce qui m'embête, c'est que la salle de presse, par exemple, à Wembley, est beaucoup plus simple. C'est des tables avec des câbles, etc. Elle est déjà très belle, hein. Il y a un petit bar aussi, il y a de quoi bouffer, très bien. Mais ce que j'aime bien à Wembley, c'est que la salle de presse, en fait, elle est vitrée et elle donne sur le terrain. Alors qu'à Tottenham, elle est un peu dans les couloirs et dans les entrailles du stade, et il faut sortir de la salle de presse, remonter un couloir, remonter des marches, etc., pour aller au terrain et à la salle de presse. Donc, je trouvais ça un peu. J'avais pas envie d'y être, du coup, parce que je préfère voir le terrain. Donc, on est resté en salle de presse quasiment tout le temps, en tribune de presse quasiment tout le temps avec Sébastien, en l'occurrence. Donc, voilà. Quelqu'un a dit. Alors, Yannick, est-ce que j'ai ramené du Men's Cookies ? Un peu, mon neveu. Je suis parti de Londres lundi matin. Pour la petite anecdote, en fait, j'ai dû courir avant d'aller à Saint-Pancras. J'ai couru à Oxford Street pour récupérer du Men's Cookies. J'ai pris un pack de 15 et que j'ai dû descendre en 3-4 jours. J'ai ramené de la Marmite. Non, alors question de François, j'ai pas eu le temps. En fait, je voulais passer le lundi matin, essayer de trouver un supermarché, un truc et faire ça tranquillement. Et en fait, le temps de rentrer le matin, les infos sur le site, etc., et de partir de l'hôtel, bah en fait, je suis allé direct à Oxford Street parce que je savais où était le Ben's Cookies. Derrière, j'ai recouru à Saint-Pancras et j'ai chopé mon Eurostar pile dans les temps. Les gens sont cool, les Buccaneers sont arrivés seulement vendredi à Londres, ils ont l'air à l'ouest, rapport de cause à effet. Honnêtement, je pense pas qu'il y ait de règles absolues là-dessus. Je crois que la semaine dernière, alors peut-être que la semaine dernière, les Raiders sont arrivés les premiers. Oui, les Raiders sont arrivés les premiers la semaine dernière, donc ça c'est vrai. C'est difficile à dire parce qu'on en est, je crois, au 25e match international ou quelque chose comme ça. Et à chaque fois, il y a plus ou moins une équipe. C'est le hasard, mais il y a toujours une équipe qui choisit de venir tôt et l'autre qui vient un peu plus tard. Et je crois pas qu'il y ait de règle absolue en termes de nombre de victoires et tout ça. Donc je suis pas sûr. Je pense que c'est vraiment. Il y a aussi une question de niveau des équipes. Je pense que Jamie Winston, il fait les mêmes matchs des fois quand il n'est pas à l'Ouest. Donc je suis pas persuadé. Je suis pas persuadé. Mais c'est ça, j'ai oublié. Normalement, dans le décor, j'avais une écharpe du Bears Raiders. Je l'ai laissée dans le bureau. Donc, j'ai une écharpe du Bears Raiders qu'on va faire gagner dans les semaines à venir, en fait. Il y avait un petit lot, mais je l'avais dit dans le fauteuil de la semaine dernière. Niveau transport, c'est comment les accès, question de Gus, pour Tottenham. Alors, il faut remonter avec l'Overground jusqu'à White Hart Lane. Attention, si vous allez à un match tard. Alors eux, ils n'auront pas le problème, par exemple, au moment où je vous parle. Mais la semaine dernière, on a eu. On a pris l'Overground pour descendre de White Hart Lane à Seven Sisters, qui a une correspondance avec une des lignes de métro. Et en fait, on a raté le dernier métro. Alors on n'est pas sorti ultra tard, j'ai pas eu l'impression. Alors on est sorti plus tard que le public parce qu'on a passé une bonne heure à travailler, à être dans le vestiaire, à envoyer des trucs, etc. Mais en fait, le dernier métro était genre à 23h30, c'était vraiment pas tard, donc on s'est retrouvé à prendre le bus, enfin ça a été un peu l'aventure, mais attention, ouais, le métro londonien, il est comme le londonien en général, c'est-à-dire qu'il mange tôt et du coup il ferme plus tôt, hein. Ça c'était un peu, mais sinon c'est accessible, c'est comme Wembley, c'est pas dans le centre-centre, mais c'est un peu moins loin que Wembley de mémoire, hein. J'ai pas eu l'impression de mettre autant de temps. As-tu ramené Est-ce qu'elle est sympa, Sophie Turner? Question de Nicolas Dub. J'aurais bien aimé le savoir, clairement, mais non, malheureusement, on n'a pas pu la rencontrer. Aujourd'hui, ils ont eu, alors c'est toujours série télé, mais il y avait un des mecs de Peaky Blinders qui était au bord du terrain apparemment aujourd'hui. Alors, tu as dû le raconter, oui. Donc François, j'ai dit, donc Tottenham ou Wembley. Honnêtement, je pense que Tottenham, si vous êtes supporter, et Wembley en journaliste, moi, j'ai préféré un petit peu. Même si, alors, sinon, par contre, il y a un truc qui est beaucoup mieux à Tottenham en tant que journaliste, c'est les vestiaires, ils sont mille fois plus grands, et c'est beaucoup moins l'horreur pour travailler. Comme on a la chance d'avoir une grosse communauté anglo-saxonne à Grenoble, on trouve de la marmite facilement, dit Bertrand. Bah tiens, c'est marrant ça. C'est gentil. Je suis à la bourre. Lundi, c'est tombé, Guillaume. Ouais, on le redonnera un peu plus tard. Toujours aussi cher les produits NFL. Question de Yannick. Alors, ouais, franchement. La boutique, c'est bien. Alors, moi, j'ai rigolé. J'ai fait une petite blague sur Instagram en mettant c'est pour vous les capitalistes quand j'ai mis le lien. Avec la photo comment dire de la boutique NFL, mais c'est hors de prix. Le bonnet, un bonnet, c'était 28 livres. Les casquettes, c'était dans ces eaux-là. Le moins de t-shirt, c'était 22 livres. Les maillots, c'était 80 livres et des poussières. 120 pour les rétros. Tout était cher. Franchement, c'est... Après, voilà, je comprends qu'on garde un souvenir et tout, mais franchement, c'est vraiment vraiment cher, quoi. Surtout qu'on perd au change avec le pound et la livre. Donc ouais, non, j'étais pas convaincu par la boutique. Je viens à peine de finir mon prêt pour le maillot que je porte. Oui, c'est ça. Le t-shirt de 2009 vient de finir d'être payé. J'ai donné le dernier versement la dernière fois que j'y suis allé. Faut bien faire les 9 milliards de chiffre d'affaires, dit France Max. En effet, je pense que c'est comme ça qu'ils s'aident. Oh, encore une passe déviée de James Winston, mais celle-là, elle tombe par terre. Je vais prendre un petit peu d'eau, si ça vous embête pas. Voilà, excusez-moi. Vous avez raté les débuts de James Harrison à la télé, j'ai même pas vu la notif dans le petit-déj. Ah bah non, après, là, c'est vrai qu'ils sont... Ils sont nombreux, les joueurs NFL, à faire de la télé. Alors, c'est vrai que des fois, on ne suit plus tout. On va dire un petit mot du match du jeudi, messieurs, mesdames. Les Patriots ont battu les Giants. Et évidemment, je ne me suis pas mis le score devant le nez. Je suis un petit peu à l'ouest aussi. Pourtant, je n'ai pas de décalage horaire. J'allais dire donc 35-14 pour les Patriots. Nouvelle démonstration défensive de New England. 213 yards et 4 ballons volés. Donc 213 yards pour les Giants, évidemment. Ils ont été limités à 213 yards. 4 ballons volés, un touchdown sur équipe spéciale après un punt bloqué. Donc ça a été une victoire logique. Est-ce que j'ai acheté un short NFL? Une question de Joe Guillaume. Pourquoi j'aurais acheté un short NFL? C'est parce que je suis en short, c'est ça? Donc, je disais, 213 yards seulement pour les Giants, 4 ballons perdus, grosse équipe de New England en défense, victoire logique, l'attaque a fait ce qu'il fallait, ce qu'il y avait à faire en tout cas, 40 minutes de possession, 6 sur 13 en troisième tentative, 427 yards et 2 touchdowns de Brady au sol. Alors, vous adorez parler des Patriots, j'ai vu qu'il y avait un nombre de commentaires incroyables sur le résumé, vous adorez parler des Patriots, donc on va commencer avec eux. Match plein de bémols, oui et non. Il manque énormément de monde en attaque, donc évidemment, d'un côté c'est dur de dire performance solide mais sans plus, pas brillante, pas éclatante, ils auraient pu... oui, François, évidemment tu détestes parler des Patriots, je me souviens que tu es supporter des Jets, mais donc voilà... Il y a des bémols. Oui, il leur manque énormément de monde en attaque. Isaiah Wynn, Philippe Dorsett, ils n'ont plus de fullback, Enkilari est toujours pas là, Damian Harris, Patrick Chung, Josh Gordon, Stephen Gostkowski, David Andrews, des blessures à des degrés d'importance divers et variés dans tout ce que j'ai cité. Donc, évidemment, l'attaque n'est pas flamboyante au moment où on parle, donc on peut mettre tous ces bémols-là. Alors, j'ai vu que ça revenait pas mal. Évidemment qu'on peut mettre ces bémols-là et dire s'ils avaient Enkilari, s'ils avaient Isaiah Wynn, s'ils avaient un fullback, s'ils avaient Josh Gordon à fond, s'ils avaient, etc. Le fait est qu'ils ne les ont pas et qu'au bout d'un moment, on est bien obligé de commenter, d'écrire et de juger sur ce qu'on a sur le terrain. Toutes les équipes ont des blessés en NFL. Donc voilà. Donc aujourd'hui, en l'état actuel des choses, avec leur attaque, ils ne sont pas encore exceptionnels parce qu'il y a toutes ces blessures, évidemment, mais donc du coup, ils ne sont pas exceptionnels. Après, on va voir comment ça revient au fur et à mesure. Voilà, on va voir, mais ils sont, encore une fois, ils sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de surprise. Et quand je dis qu'ils ne sont pas exceptionnels, c'est qu'il va falloir voir ce qui se passe quand ça se resserre en face. Aujourd'hui, Tom Brady est un très 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 bon quarterback, mais il faut bien qu'il soit entouré. Il n'a pas gagné tout seul l'an dernier, on l'a dit, il faut qu'il y ait des armes autour, il faut qu'il y ait un jeu au sol autour, il faut qu'il y ait une ligne devant lui. Il ne peut pas gagner tout seul. Et quitte à choquer, c'est pas Patrick Mahomes, il ne va pas courir, il ne va pas faire trois tours sur lui-même, lancer une passe de la main gauche, etc. C'est Tom Brady, il faut qu'il soit entouré, il faut qu'il ait un left tackle, il faut qu'il ait un coureur derrière lui. Et pour l'instant, c'est pas encore optimal. Alors, c'est pas grave, c'est les Patriots. Ils sont à 6 victoires et 0 défaite. Tout va bien. Ils ont pas de soucis à ce niveau-là. Ils vont encore monter en puissance tout en gagnant tout, alors que les autres années, ils ont lâché toujours un ou deux au début de l'année. Pour l'instant, ils n'ont même pas lâché. Donc, ça va, il n'y a pas de soucis. Mais voilà, Tom Brady ne peut pas gagner tout seul. Donc, si les blessures restent dans cet état-là, ça pourra devenir compliqué quand ils vont commencer à jouer des défenses qui sont plus coriaces. On l'a vu contre les Bills, où ça a été compliqué, où Tom Brady avait une fiche de stats qui était quand même assez quelconque. Donc voilà, c'est ça qui est le bémol, encore une fois, au sens où, évidemment, qu'ils ne sont pas encore hyper affûtés, mais on ne peut pas dire tout le temps les blessures. Et évidemment, ils ont des blessures, mais comme tout le monde. En face, les Giants, ils n'avaient pas Saquon Barkley, Sterling Shepard et Evan Engram. Forcément, mais dans ce cas-là, on juge plus rien si on juge les mecs que sur le papier de l'équipe qui existe au début de l'année. Et on les juge sur ce qu'on voit. Moi, c'est mon parti en tout cas. Donc voilà, là, Daniel Jones, pareil, hein, de l'autre côté, il a fait comme il a pu. Et lui, pour le coup, il est quand même déjà dans une situation compliquée de base. Là, il se retrouve dans un truc qui est complètement inextricable. Il est quarterback rookie, il joue contre Belichick. Belichick qui a pour habitude quand même de torturer et les Panthers qui recouvrent un punt complètement raté au niveau du retour par les Buccaneers. Encore une balle perdue pour Tampa, ça doit faire la 43e. Donc je disais, oui, Daniel Jones par exemple, lui aussi était dans une situation hyper compliquée. Donc évidemment qu'il y a des bémols, etc. Mais il faut bien faire avec ce qu'on a sur le terrain, c'est là-dessus qu'on juge. Qui est le coordinateur défensif des Patriots, question de Gus, c'est Bill Belichick, hein, dans les faits où on se parle. Y a pas de, je crois que personne n'a le titre officiellement dans l'équipe. Est-ce que c'est Jaron Mayo qui appelle les jeux? Je vais laisser les supporters des Patriots me corriger si j'ai une bêtise. Je crois que c'est Jaron Mayo qui appelle les jeux. Mais Bill Belichick est de fait le coordinateur défensif de cette équipe. Mais voilà, encore une fois, c'est pas du tout un tort ou un problème. Ils font leur boulot pour l'instant, donc c'est absolument louable. Mais voilà, quelqu'un disait dans les commentaires que la ligne offensive pouvait éventuellement commencer à inquiéter. Et on l'a vu à Londres, ils ont perdu Trent Brown qui fait du bon boulot pour les Raiders aujourd'hui. C'était un bon left tackle. Ils ont un blessé, un autre blessé, David Andrews, Isaiah Wynn, ça fait du monde. Donc vraiment, voilà, c'est à surveiller, il faudra voir quand l'opposition va se relever. Pour leur défense, même semi-bémol, on va dire, au sens où elle est exceptionnelle, elle est très très bien coachée, elle fait du gros boulot, Kylen Von Noy met le touchdown de la gagne, etc. Voilà. Mais, et encore une fois, il n'y a aucun match facile en NFL, donc je ne néglige pas totalement ce qu'ils ont fait. Je ne dis pas que c'est facile, je ne dis pas qu'ils avaient que c'était évident, parce que pas toutes les équipes, ou peut-être aucune équipe n'aurait fait ça, même avec leur calendrier, mais il va falloir aussi attendre de voir. Aujourd'hui, leur défense, elle est exceptionnelle, statistiquement très bien, mais ils ont joué les Steelers, bon, derrière les Dolphins, les Jets, les Bills, les Redskins et les Giants. Il n'y a personne dans ces équipes, il n'y a personne. Ils ont joué Ryan Fitzpatrick, c'était même pas Sam Darnold, Josh Allen, Keskinom, et même pas Keskinom d'ailleurs, je crois qu'on leur a mis Dwayne Haskins à un moment, c'était Colt McCoy, excusez-moi, et c'est pareil quoi, et Daniel Jones, qui est un débutant et qui mange tout cru les débutants à chaque fois. Donc il va falloir quand même attendre un petit peu de voir ce que ça donne, même si c'est une très bonne défense. Daniel Jones a eu un match très difficile, mais c'est normal. Et c'est pas inquiétant non plus, comme c'est pas inquiétant que l'attaque des Patriots puisse être un peu poussive avec tous ses absents, surtout quand il est aussi seul, c'est-à-dire que la ligne offensive a progressé, mais il n'avait pas Saquon Barkley, je crois qu'il n'avait pas Wayne Gallman non plus d'ailleurs, qui est la doublure de Saquon Barkley. Vous lui enlevez, alors il y a Golden Tate, très bien, mais voilà, il n'y a personne, quoi. Il n'y a personne dans cette équipe pour l'aider, donc c'était très compliqué, ça reste un bon quarterback en devenir, on ne va pas s'inquiéter tout de suite parce qu'il perd, parce qu'il n'a personne autour de lui. Voilà donc pour le petit mot sur le match du jeudi. N'hésitez pas si vous avez Quel est le premier plat plus premier fromage que tu as mangé en rentrant de France? Question de François. Donc j'allais dire, si vous avez des questions, la bonne question de celui-là, tiens, qu'est-ce que j'ai vous fait? J'ai mangé un sandwich à la gare Saint-Lazare, je crois. Ouais, j'ai mangé un sandwich à la gare Saint-Lazare. Donc c'était pas forcément exceptionnel. Oui, j'ai mangé un bagel. Je sais plus ce qu'il y avait dedans. Je sais plus. C'était un bagel avec des légumes et du fromage. Mais je sais plus ce qu'il y avait dedans. Et après, vrai truc, je crois que le lendemain, je me suis fait des pâtes pour avoir un truc bien consistant, avec une bonne sauce et du parmesan. Je crois que ça devait être ça. Alors, n'hésitez pas si vous avez des questions. Personne n'en parlera aux équipes qui prennent 20 points par les Steelers. C'est leur backup QB ou Daniel Jones. Face aux Chiefs, un vrai match. Alors oui, par contre, je ne l'ai pas dit. Hein, le calendrier derrière des Patriots, juste pour terminer. On attend, alors ils jouent encore une équipe faible, bah, ils jouent les Jets cette semaine, mais derrière, dans pas longtemps, il va y avoir Eagles, Cowboys, Texans, Chiefs. Voilà, là avec ces quatre-là, on aura quand même un panorama un peu plus costaud. Je remonte un petit peu vos commentaires pendant que je faisais mon monologue pour voir si j'ai raté quelque chose. Hop, il y a Loïc qui a trollé un petit peu, c'est ça. Sur Gilmore, meilleur cornerback de la ligue. Clément, c'est vrai que c'est une bonne remarque. En tout cas, il est très très haut. Hop, je redescends un petit peu. C'est qui le backup quarterback des Bucks? C'est une très bonne question. C'est une très bonne question. Ça fait partie de ces anonymes interchangeables. Ça peut être peut-être Luke Fall, qu'ils ont déjà re-signé des Jets coupés hier. Non, mais ça pourrait être quoi. Alors attends, je suis en train de chercher parce que tu as piqué mon intérêt. C'est Ryan Griffin. C'est vrai, j'avais oublié Ryan Griffin. Comment ça se fait que les Pats jouent les Chiefs deux années d'affilée? Question de Maxime. En fait, dans le calendrier NFL, les équipes, alors j'espère que je ne vais pas dire de bêtises parce que je m'embrouille toujours, jouent deux fois les équipes de leur division, donc ça fait six matchs. Elles jouent une fois les équipes d'une division de la même conférence, une fois, donc ça fait quatre, on est à 4 et 10. Une fois les équipes d'une division de l'autre conférence, donc ça fait 14 matchs. Et les deux derniers, si je ne dis pas de bêtises, c'est contre deux équipes d'autres divisions qui avaient le même classement qu'eux. C'est-à-dire que si vous étiez premier de votre division, vous jouez deux autres premiers de division. J'espère que c'est assez clair. Et donc, c'est comme ça qu'on se retrouve souvent avec Patriots Chiefs, parce qu'ils sont premiers de leur division. Donc, ça augmente les chances de jouer, comme à une époque, les Patriots rencontraient par exemple très souvent les Colts de Peyton Manning ou les Broncos de Peyton Manning, quasiment tous les ans. C'est parce qu'ils sont toujours, toujours premiers de leur division. Idem pour les Vikings, deux fois les Lions. Alors par exemple, là où il dit les Vikings, deux fois les Lions, c'est normal, ils sont dans la même division. Tous les ans, toutes les équipes NFL affrontent deux fois les équipes de leur division. Comme là, par exemple, on a un Panthers-Buccaneers à l'écran derrière moi qui est en train de se jouer à Londres. C'est la deuxième fois que ces deux équipes se jouent parce qu'elles sont dans la même division. Hop là, qui est Ryan Griffin? Bah oui, du coup je retourne la question. Le quarterback remplaçant des Buccaneers. Je réponds à deux questions d'un coup. Le propriétaire des Dolphins ne devrait-il pas acheter tous les billets du Super Bowl et les offrir aux abonnés cette saison histoire de voir un bon match au Hard Rock Stadium? C'est une bonne remarque. Combien de temps avant un trade pour un tackle chez les Browns? Ils sont sûrement les pires de la ligue aujourd'hui. C'est vrai que la semaine prochaine on sera en semaine 7. Je crois que la deadline est en semaine 8. La semaine prochaine on pourra parler des joueurs qui pourraient être échangés, tiens, parce que c'est des questions qui vont revenir souvent et commence à y avoir de plus en plus de rumeurs. On est parti pour un Patriots Chiefs de nouveau en finale AFC, ça c'est clair. Winston est catastrophique, dit Stanislas. Oui, c'est Jameis Winston, une semaine sur deux, normal. Les Jaguars sont Garrett Minshew, ont retrouvé Fournette et Westbrook et Shark, mais ont-ils la force de s'imposer en AFC Sud ou de récupérer une wild card? Bah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, Jalen Ramsey ne jouera pas cette semaine. Mais il y a une pub derrière. Je voulais pas me porter la poisse. C'est la première fois que j'ai le match en même temps ou que j'ai NFL Network en même temps pendant que je fais le fauteuil, parce que d'habitude, un, ça me déconcentre. Et là, c'est le genre de pub avec des trucs qui coulent de partout. C'est un peu bizarre. Est-ce que Winston va finir la saison pour moi? Question de Gus. Oui, je pense, parce que pour l'instant, Ryan Griffin, c'est pas une option. Mais en tout cas, enfin, ils veulent voir ce qu'ils ont avec Winston de toute façon, mais s'ils lui donnent un gros contrat, je serais plié en deux. Sherman Mayfield dans l'octogone, Rammstein Bob. Non, bah, oui, c'est bizarre cette histoire, il a serré la main, mais pas assez fort. J'avoue que ça me passe un peu au-dessus, mais oui, c'est rigolo. Du coup, 6 matchs idem chaque année, soit suivant les divisions, il y a des équipes faibles depuis des décennies, donc des équipes qui surperforment, dommage, question de Willy. Oui, c'est une des polémiques, hein, si tu découvres la NFL, Willy. C'est une des polémiques, par exemple, avec les Patriots, parce que certains diront qu'ils ont un calendrier trop facile tous les ans et qu'ils ont un boulevard pour aller en playoff, parce que dans leur équipe, les divisions sont très faibles depuis des années. Donc ils jouent tout le temps, ils jouent deux fois les Jets, deux fois les Bills et deux fois les Dolphins. Et du coup, on va te dire, ouais, mais là, du coup, c'est facile pour eux d'aller en playoff. Après, c'est juste que les divisions, c'est les rivalités historiques de la NFL, et le premier objectif d'une saison NFL, c'est de gagner cette division, parce que gagner la division égale aller en playoff. Les autres équipes de la division n'ont qu'à être fortes, dit Maxime. Alors oui, moi par contre je fais partie du camp, on ne peut pas reprocher à une équipe que les autres équipes de sa division soient moins bonnes, c'est pas de leur faute quoi. Les Patriots ils sont pour rien si les autres sont nazes. Et après, on le disait aussi, il n'y a pas de match facile en NFL. Les Patriots ils ont le mérite de toujours les ratatiner, de toujours les faire douter et de toujours les remettre dans leur trou quand ils pensent qu'ils sortent. Hein. Donc ça. Quelle division de 8 équipes, qu'est-ce que tu en penses? J'ai pas les calculs de calendrier en tête, honnêtement. Donc je ne sais pas. Mais moi, j'aime bien la formule actuelle, honnêtement. J'ai pas de problème. Oui, il y a Fabrice qui dit... il y a Fabrice qui dit les mecs ont qu'à être meilleurs à croire qu'ils le font exprès, genre les Jets qui prennent Gaze, là, l'idée de... Mais oui, moi, je suis assez d'accord. Je veux dire, les Patriots, ils forcent pas les Jets à embaucher Adam Gaze... Ils forcent pas les Dolphins à tanker comme des dingues, c'est pas leur faute non plus, quoi. Donc voilà. Je vais parler. Russell Wilson est-il déjà un Hall of Famer? Question de Thomas. Ouais, je sais pas. Il est dans la ligue depuis. J'ai un doute sur l'année parce qu'on avait fait la draft où il est sélectionné. Je me demande si c'est pas 2012 du coup. Mais du coup. Je sais pas, mais il se dirige vers. Il a déjà un titre. S'il allait en chercher un deuxième, surtout avec les stats qui commencent à produire maintenant, ouais, ça pourrait être pareil. Kyle Allen va-t-il piquer le poste de numéro 1 à Newton? Question de Rich Law. Moi, c'est une petite musique que je donne doucement depuis même les deux premiers matchs. Hein. Il fait le taf, il perd pas de ballon, enfin, il perd des fumbles, mais il se fait pas intercepter. Il est propre. Je sais pas. S'il y a une équipe qui te dit allez, vas-y, banco, je te donne deux premiers tours pour Cam Newton. Sachant dans l'état dans lequel l'état physique dans lequel a l'air d'être Cam Newton. Ça me dirait pas mal. Newton a fait une seule bonne saison, dit Bertrand. Ouais, et quelle saison? Non, mais il était bon, mais c'est vrai que ses problèmes de blessure ont quand même l'air de le rattraper. Donc voilà, c'est honnêtement, en tout cas, moi je suis les Panthers. J'espère que Newton reste absent le plus longtemps possible, dit bizarrement. Mais pour moi, je suis les Panthers.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
J'espère que là, j'ai encore au moins une semaine, ou deux semaines, ou trois semaines, ou quatre semaines, ou cinq semaines pour encore laisser jouer Allen, parce que tant que tu gagnes, honnêtement, moi je veux voir ce qu'il peut faire. Donc pourquoi pas. Salut les amis, hein, Morgan, tu es en retard, tu t'es endormi dans le canapé. Sa technique de lancer n'a jamais progressé pour Bertrand, donc on parle de Newton, je suppose. Pour le débat sur Wilson Hall of Fame, alors on a Loïc qui est pour direct. Une défaite des Steelers cette semaine égale la fin de Tomlin, dit Stanislas. Je pense pas, parce que là il a l'excuse d'être un peu dépouillé au poste de quarterback. Donc ça va être. Ça devrait le sauver, et puis ils ont quand même, je pense, suffisamment de respect pour lui et ce qu'il a fait quand même au fil de sa carrière pour le garder jusqu'à la fin de l'année si jamais il voulait le virer. Mais les Steelers sont quand même une des franchises les plus stables de l'histoire au poste de coach. Il y a eu très peu de coachs, je crois, c'est 4 ou 5 coachs sur l'ensemble de la vie de la franchise hein, à Pittsburgh. Donc il faut vraiment pas négliger ça. Tomlin, il est quand même en place depuis au moins 10-11 ans maintenant, c'est sa 11e saison, si je ne dis pas de bêtises. Il succédait à Bill Cowher, qui était resté un paquet de temps aussi. Attendez, je voudrais juste retrouver, juste pour vous dire quand même, la liste des coachs des Steelers. Alors, Pittsburgh Steelers, alors j'ai dit 4, Non, alors voilà, 4, à mon avis, c'est depuis qu'ils sont en NFL, en tout cas depuis la fusion de la NFL et de la AFL, c'était en 60, je ne sais plus combien. J'ai toujours des trous hein, sur les dates, je suis désolé. Je suis en train de regarder en quelle année ça a fusionné, 70, non, ou 69? N'hésitez pas à m'aider dans le chat. Depuis 50 ans, voilà. Donc, en tout cas, pour vous donner, voilà, juste quand même, 2007 à maintenant, Mike Tomlin, 1992 à 2006, Bill Cowher, 1969 à 1991, Chuck Knoll. Donc, vous voyez, on en a eu 3 depuis 1969. C'est quand même incroyable. Ça doit être le nombre de coachs des Browns en 2 ans sur leur moyenne, quoi. Donc, ou en 3 ans, évidemment, je suis mauvaise langue. Mais voilà, c'est délirant. Ils ont 3 coachs depuis 1969. Nicolas qui dit « Je me demande jusqu'à quand je verrai encore des gens croire au retour de Colin Kaepernick. » Alors, tu peux m'enlever de la liste. Moi, je n'y crois absolument plus. Je pense qu'il mériterait d'avoir une chance parce que bon, quand on voit ce qu'il y a sur les bancs NFL à l'heure actuelle, on ne va pas me dire que Colin Kaepernick n'aurait pas le droit de tenter sa chance. Mais il ne reviendra jamais. Personne ne le signera jamais. Maintenant, c'est faut pas... Il n'y a absolument rien à espérer, clairement. McCaffrey, 2 touchdowns, mais seulement 58 yards sur ce match, dit le toutoun. Ouais, mais là, il n'a plus vraiment besoin. Tiens, il y a Gerald McCoy qui sourit, il a dû encore faire des misères. Qu'est-ce qu'il a fait, Gerald McCoy? Je vois son bras levé, je vois qu'il est sur la ligne. Il se débarrasse. Ah non, ils ne m'ont pas laissé la rentrée jusqu'au bout. Bon, bref. Le thème de la semaine. Allez, les pires matchs de la semaine à Londres, le top 5 quand même. Je voulais faire un petit mot là-dessus. Je suis en train de réduire les thèmes de la semaine au fur et à mesure. Il y a Gwenaël qui dit que Kaepernick, c'est intenable médiatiquement parlant. On va pas remettre une pièce dans le jukebox parlant, mais je pense que c'est plus en termes de courage que c'est intenable pour les propriétaires NFL. Parce que bon, médiatiquement, visiblement, on n'a pas de mal à employer des mecs qui frappent leurs enfants ou des choses comme ça. Hein. Coucou Tyreek Hill qui va jouer cet après-midi. Donc c'est plus une question de courage, à mon avis, que de médiatique, etc. Donc, j'ai dit, je ne parle plus de ça. Le thème de la semaine, les 5 pires matchs à Londres, on va commencer avec. On va faire dans l'ordre chronologique, j'ai pas classé vraiment parce que. Ils sont tous mauvais. Les Dolphins contre les Giants, c'était le premier, tout premier match de l'histoire à Wembley. 10 à 13, 13 pour les Giants, 10 pour les Dolphins. C'était sous la pluie. Les Dolphins arrivent en étant à 0 victoire, 7 défaites. Ils termineront cette saison-là à 1 victoire pour 15 défaites. Oui, c'était déjà les Dolphins. 245 yards d'un côté, 238 de l'autre, un match horrible. Cléo Lemon, qui était le quarterback des Dolphins sur ce match, figurez-vous. Et en fait, le symbole de ce match pour moi, il pleuvait, les Ricains n'étaient pas habitués à la pelouse de Wembley, et à l'époque, je pense que Wembley n'avait pas vraiment prévu ce que ça allait être, parce qu'ils avaient massacré la pelouse, ils étaient tous recouverts de terre, il pleuvait des cordes, et le symbole de ce match, c'était vraiment une passe de Cléo Lemon qui recule, qui lance, et en fait, le ballon lui glisse des mains et le ballon part derrière. Je pense que ça résumait totalement ce match. Eli Manning finit le match à 8 sur 22 pour 59 yards, quand même. Hein. La star du match, c'est Brandon Jacobs, 23 courses, 131 yards au sol. C'était un bulldozer, Brandon Jacobs, pour ceux qui n'ont pas connu. Et cette année-là, quand même, les Giants vont gagner le Super Bowl en battant les Patriots, quand même. Mais ça n'avait pas l'air d'une équipe qui allait gagner le Super Bowl à ce moment-là, vous pouvez me croire. 2009, et c'est là qu'on en vient. Patriots Buccaneers 35 à 7. Alors là, dans un autre genre de pire, parce que là, c'était même pas serré, et ça va être le thème récurrent. Dans un autre genre de pire, les Buccaneers arrivent, 0 victoire, 6 défaites. Leur quarterback de l'époque, c'est Josh Johnson. À l'époque, Josh Freeman est un rookie qu'ils ont drafté au premier tour. Josh Freeman entre en jeu pour la première fois dans sa carrière NFL lors de ce match à Londres. Mais honnêtement, ça sert pas à grand chose. 21-0 dans le second quart, après un pick six notamment de Johnson, c'est allé très très vite, je me rappelle de ce match pour le coup. C'est allé très très vite, 5 turnovers au total, 16 pénalités. Alors, la bonne nouvelle, parce qu'il y a toujours une bonne nouvelle dans un match NFL à Londres, c'est que le public européen a vu Tom Brady, Randy Moss, je me rappelle, il y avait Randy Moss, incroyable, Vince Wilfork, Wes Welker, enfin il y avait de la superstar, franchement, pour ces Patriots à l'époque sur le terrain. Et du coup, ça s'est traduit dans les faits par un petit massacre. Je vous dis, dans le premier quart, il y a ce pick six. Je crois que les Patriots marquent en premier. Derrière, il y a un pick six. Et puis moi, je me suis dit, c'est fini. C'est fini. Et on était un peu en touriste pendant la deuxième mi-temps. 2012, les Rams jouent les Patriots encore une fois, en 2012, 45 à 7 pour... Ah, Jameis Winston au sol pour le touchdown. Oh là là, il sauve l'honneur. Jameis Winston sauve l'honneur. Ah non, c'était pas le touchdown, pardon, c'est la conversion à 2 points, il venait de marquer. Donc 45-7 pour les Rams. Alors celui-là, pour la petite anecdote, c'était le premier match sur lequel Todd Gurley était accrédité en tant que média. Donc c'est 45-7 pour les Patriots. Les Rams marquent le premier touchdown sur un long touchdown, passe de 50 yards de Sam Bradford. Sam Bradford pour Chris Givens, long touchdown de 50 yards. Le stade s'enflamme, 7-0, on se dit « Oh, va y avoir un match !» Et là, première possession offensive des Patriots, parce qu'en fait, les Rams marquent sur leur première possession offensive. Derrière, les Patriots, touchdown sur leur première possession, touchdown sur leur deuxième, touchdown sur leur troisième, touchdown sur la quatrième, touchdown sur la cinquième, emballé, c'est posé, ils explosent tout ça, 23 sur 35, 304 yards et 4 touchdowns pour Tom Brady, qui distribue un Rob Gronkowski incroyable, 8 réceptions, 146 yards et 2 touchdowns. C'était vraiment une balade pour les Patriots. C'est pareil, on s'est un peu ennuyé à la fin, quoi. Il n'y avait pas vraiment de suspense. Les Packers n'y sont jamais allés, dit Fabrice. Les Packers, après cette année, seront la seule équipe NFL à ne pas avoir joué à Londres. 2015, Chiefs-Lions, 45-10. Les Lions arrivent dans ce match à 1 victoire, 6 défaites. Et là, c'est pareil, c'est plié à la mi-temps, 24-3. Des belles courses d'Alex Smith quand même, à se mettre sous la dent en première mi-temps, 78 yards en 5 courses avec un touchdown, et puis derrière, gestion de la seconde mi-temps, 206 yards pour les Chiefs. On parle quand même d'un match où on a... Alors il y a Gus qui dit pourquoi Pittsburgh ne veut pas aller à Londres. Pittsburgh est déjà allé, hein, ils ont joué les Vikings, et c'était un des très beaux matchs, on en a parlé dans le top 5 de la semaine dernière. Donc je disais, on a eu un match pour le Lions-Chiefs avec 2 interceptions de Stafford, et surtout, on a eu un match qu'on a fini avec Dan Orlovsky d'un côté, et Chase Daniel de l'autre. Voilà, c'est pour vous situer un petit peu. Le seul truc, l'expérience américaine quand même de... l'expérience américaine, j'ai envie de dire, de ce match Lions-Chiefs, c'était le fait que le public ait pu sentir la misère de Calvin Johnson comme pouvaient le sentir les Américains à l'époque. Voilà, on a pu voir Calvin Johnson traîner sa peine sur le terrain de jouer dans une équipe qui n'était pas à la hauteur de son niveau. Le dernier, bah regardez, j'en ai déjà fait 4. Ben ouais, j'en ai déjà fait 4. Donc, c'est que le bullet brand, bah oui, le bullet brand sur Brady Raiders, c'est vrai qu'on aurait pu voir Antonio Brand la semaine dernière à Londres. Si Kyle Allen maintient son niveau, alors on en a parlé de Cam Newton tout à l'heure, hein, Nicolas, je disais, si, alors je vais revenir là-dessus, tiens, je vais finir mon top 5, mais je reviens un petit mot là-dessus. Donc je termine avec 2017, et 2017 évidemment, c'était le Jaguars Ravens, je crois que c'est Rammsteinbaum qui y a fait allusion. 410 yards pour les Jaguars, 186 yards pour les Ravens sur ce match. On a un match où Blake Bortles a l'air d'une superstar, 20 sur 31, 244 yards et 4 touchdowns, et puis surtout un 44-0, quand je vous dis 44-7, c'est vraiment qu'ils ont sauvé l'honneur à la fin. Alors, c'était, il y avait plusieurs concurrents, parce qu'il y avait 4 matchs à Londres en 2017, et il y a quand même eu 3 belles purges. Il y avait des prétendants, hein, parce que cette année-là, il y a aussi un Saints-Dolphins qui se termine à 20-0, et un Rams-Cardinals qui se termine à 33-0. Donc c'était quand même pas, la folie. Ils ont bien relevé le niveau l'an dernier et cette année, pour l'instant, même si le Buccaneers, il est un peu étrange en ce match, on est à 37-26 pour les Panthers. Voilà, un first down pour Christian McCaffrey sur 3e tentative, donc ça va continuer à faire tourner le chrono, mais il reste 2 temps morts aux Buccaneers. Mais oui, donc plutôt des bons matchs l'an dernier. Mais voilà, il y a quand même des choses qui varient au niveau du niveau, c'est le cas de le dire. Donc je vous le rappelle, Dolphins Giants 2007, Buccaneers Patriots 2009, Rams Patriots 2012, Chiefs Lions 2015 et Jaguars Ravens de 2017. C'est notre quintet de tête pour les pires matchs de Londres et ça rappelle des mauvais souvenirs. Et on va revenir donc un petit peu sur vos questions, avant de dire un mot sur les affiches. Le coach des Bucks s'est plaint du fait qu'ils n'ont pas eu de match à domicile depuis la semaine 2, il me semble, dit Stanislas. Oui, mais ça ne rend pas... c'est pas une excuse pour James Winston. Et les Raiders sont un calendrier impossible au niveau des déplacements, et pourtant ils ont fait bonne figure la semaine dernière. Même question pour Minshew, général des X. Et donc Nicolas demandait si Kyle Allen, pour le cas Cam Newton. Alors, je l'ai dit un peu plus tôt, hein, pour Cam Newton, moi je suis curieux qu'ils laissent jouer Kyle Allen le plus longtemps possible pour savoir ce qu'ils ont. Et si vraiment ils sont confiants, moi je ne serais pas choqué s'il y a une équipe qui propose un échange intéressant pour Cam Newton. Lâche-le. S'il y a une équipe qui lâche un premier tour ou des choses comme ça et que tu es content de Kyle Allen avec Christian McCaffrey, pourquoi pas? Moi ça me choque plus. Pour Gardner Minshew, ce qui est sûr, c'est que Gardner Minshew est sur un contrat rookie, donc il faut absolument le garder. À voir les conditions, j'ai plus les conditions en tête du contrat de Nick Foles, s'il est facilement coupable ou pas. Mais honnêtement, ça me paraît plus évident pour Allen que pour Minshew. Alors, je suis peut-être biaisé parce qu'il gagne plus, mais les deux, honnêtement, ont une vraie carte à jouer, hein, clairement. Et quand les Packers à Londres, dit Yannick, bah oui, on ne sait pas. Qui ira à Londres, demande Gus en 2020, on ne sait pas non plus. Hein, c'est annoncé en général après le Super Bowl ou quelque chose comme ça. Ça dépend des années, mais c'est annoncé entre janvier et mars. Ça dépend des années. Le Jags Falcons ont fait de Londres leur deuxième base pour la franchise. Les Jaguars, de toute façon, oui. Chargers à Londres, oui. Il suffit que Rivers ne blesse personne dans les supporters, dit Willie Marty. Après, il y en a quelques-unes. Les Chargers sont déjà venus deux fois, si je ne dis pas de bêtises. Les Patriots, au moins deux fois. Ils ont joué les Rams et les Buccaneers. Ils ne sont pas revenus récemment. Mais ils sont venus au moins deux fois, ça c'est sûr. Les Steelers, en effet, sont peut-être venus deux fois. Les Buccaneers, c'est au moins la troisième fois qu'ils viennent, parce qu'ils avaient joué les Bears aussi. Les Saints étaient venus jouer les Chargers. Je ne sais pas s'ils sont revenus depuis, ils étaient venus en 2009. Les Dolphins sont venus au moins deux fois. Enfin, ça commence à y avoir du monde hein, quand même. Titans, Chargers aussi. Donc voilà, il y a pas mal, franchement, deux choses. Grumpy, Newton, ses blessures récurrentes, vaut-il un premier tour? Encore une fois, c'est pour ça que je dis, s'il y a une équipe qui donne un premier tour, ça paraît haut, mais s'il y a une équipe qui le donne, je suis prêt à écouter, du coup. Les affiches de la journée, juste pour dire un mot aussi là-dessus, parce qu'on est là pour ça, c'est un avant-match. Le Buccaneers-Panthers est en train de se finir. Alors, il y a 9 points de retard pour les Buccaneers qui récupèrent le ballon avec 3 minutes à jouer. Donc, ça veut dire que ils peuvent marquer une fois onside kick et marquer une deuxième fois. Ce serait la fin de match la plus incroyable du monde. Mais c'est faisable. Au moment où on se parle, ils sont encore dans le match. Évidemment, ils ont Jameis Winston. Il y a un plan sur Jameis Winston au moment où je vous parle. Il y a une chance sur deux quand même qu'il envoie une interception dans les 4 minutes à venir. Les affiches de la semaine. Donc, après ce Buccaneers-Panthers que j'espère vous êtes en train de regarder d'un œil, mais surtout en train de regarder ici. Donc il y a un Chiefs Texans moi qui me plaît beaucoup, gros test pour les deux défenses. Les Chiefs vont vouloir rebondir après une défaite contre les Colts, donc ça va être quand même plutôt pas mal. Winston pour la ligne de touche, mais ça ressemble quand même vraiment bizarre tout ça. Donc gros test pour les deux défenses. Les Chiefs vont vouloir rebondir après une défaite contre les Colts, et les Texans peuvent quand même faire du feu d'artifice offensif avec toute cette armada qu'ils ont de Deshaun Watson, DeAndre Hopkins, Fuller. Enfin, voilà, il y a quand même des bonnes choses. Donc celui-là me plaît beaucoup. Le Vikings-Eagles est très très bien aussi. Là, je suis sur 19h hein, pour l'instant. Le Vikings-Eagles dans la NFC, c'est toujours des beaux matchs. C'est deux équipes qui ont quand même beaucoup de joueurs solides en défense. Alors un peu moins chez les cornerbacks de Philadelphie, mais sur les lignes, il y a quand même des beaux spécimens. Il y a des Fletcher Cox, des Everson Griffin. Et Godwin, et ça avance toujours du côté de Tampa. Donc, il y a des belles choses, moi j'aime bien ça. Après, le quarterback est forcément meilleur du côté de Philadelphie, mais il a moins de cibles. Imaginez un peu si on donnait Adam Thielen et Stephon Diggs à Carson Wentz. Mais voilà, donc Kirk Cousins, c'est un grand match, c'est un gros match face à une équipe au bilan positif. En théorie, au mieux misé sur Philadelphie. Aucune remarque sur le fait que Henry est en caleçon, dit Loïc. Je ne suis pas en caleçon, je suis en short. Ah, mais j'ai chaud, excusez-moi, je suis pas frileux. Oup, là, on a failli. Elle va arriver, cette interception. Je cache un petit peu. Ouais, c'est dimanche, Loïc, exactement. Je pensais qu'il y aurait plus de remarques sur mes lunettes, mais bon, comme j'ai dû vous habituer la semaine dernière. Donc, je disais, Vikings, Eagles, ça, c'est pas mal. Le troisième, alors il y a 4 matchs, moi, que j'aime bien à 19h. Browns, Seahawks, ça me plaît bien aussi parce que, mine de rien, les Browns, ça reste une des équipes, ça reste une des équipes curiosité de la saison, qu'on le veuille ou non. Face à cette équipe de Seattle où on a Russell Wilson qui joue en mode MVP depuis le début de la saison, forcément, c'est important. Il y a quelqu'un qui demande, c'est un bonnet de quelle équipe derrière? On le voit, le bonnet sur le... Ah oui, c'est un bonnet NFL à Londres, on va le faire gagner à un moment ou à un autre. J'ai stocké des cadeaux pour 10 ans, là, j'oublie de les faire gagner à chaque fois. Quelqu'un qui dit je ressemble à un professeur Strick des années 50. Oui, écoutez, peut-être. C'est les lunettes, c'est ça? C'est les lunettes et la calvitie. Je pense qu'il y a un mélange des deux qui fait que. Mais voilà. Oui, désolé, pour les lunettes, je. Oh, ouais. Pour les lunettes, je suis obligé. J'ai des vertiges depuis 2 jours pour être tout à fait franc avec vous. Et donc, ça aide à ce que ce soit un peu moins pire. Si vous me voyez tomber par terre d'ici la fin de l'émission, c'est que je suis déshydraté et vertige. Donc, Browns Seahawks un peu intéressant et Jaguars Saints, c'est mon dernier parce que Teddy Bridgewater monte en puissance et la défense des Jaguars c'est pas mal. Alors toujours pas de Jalen Ramsey qui sera absent dans ce match. J'ai pas précisé pour le Chiefs Texans, il y aura le retour de Tyreek Hill d'ailleurs. Mais donc pour le Jaguars Saints, intéressant, Teddy Bridgewater face à la défense des Jaguars, même sans Jalen Ramsey, ça reste intéressant. Et puis Gardner Minshew face à la défense des Saints, qui quand même monte aussi en puissance. Miami-Washington, c'est le dernier, c'était juste pour rigoler, c'est le Tank Bowl. Et justement, quelqu'un avait posé la question, Fabrice, franchement, je ne sais pas qui va gagner ce match, mais je ne vous conseille pas de le regarder, en tout cas, vu qu'il y a quatre très belles affiches. Considère vraiment pas ça. Je vous conseille vraiment pas ça. Et elle est là, l'interception. Quelqu'un l'a donné sur le chat. Ça m'a spoilé parce que moi je l'ai que maintenant. Et voilà. On vous l'avait dit, une chance sur deux. Et à mon avis, j'étais faible. Merci beaucoup à Jameis Winston d'être toujours égal à lui-même. L'action la moins surprenante de l'année. Elle est là. Jameis Winston intercepté encore une fois. Il en est à combien? J'ai même pas la fiche de stats devant les yeux. Attendez, je vais me mettre le box score. Quatrième interception pour Jameis. Et il a perdu un fumble. Il y a deux fumbles commis, mais un seul qu'il a perdu. Il y en a un qui était recouvert. Donc, ça fait cinquième ballon perdu pour Jameis. Ah, Jameis, il est bien. Jameis, c'est un océan de stabilité dans un monde beaucoup trop agité. C'est-à-dire que s'il se passe des trucs un peu agités dans votre vie, si vous devez déménager, si vous devez changer de boulot, si vous êtes triste, si c'est instable, vous allumez votre télé le dimanche, il y a Jameis Winston et là, il lance une interception et tout rentre dans l'ordre. Donc, je disais ça avant le match de 22h. C'est ça, un phare de certitude dans la tempête. Merci Gaël, c'est comme ça qu'on dit. Je le disais, 22h, très belle affiche. Les Rams contre les 49ers. Ça, ce sera clairement l'affiche de la soirée. Ce duel californien qui promet quand même énormément. Sans Todd Gurley, officiellement forfait, à bien noter. Donc, ça va tourner au niveau des coureurs des Rams. Est-ce que ça joue vraiment? Je ne sais même pas, parce que quand on voit l'influence de Todd Gurley sur les matchs cette année, je ne suis pas convaincu que son absence change grand-chose. Donc, on va voir, mais franchement, je ne suis pas... Ouais, je suis pas... Ça va être un beau match quoi qu'il arrive, et c'est peut-être les 49ers qui vont imposer plus leur jeu au sol. Ça va être en tout cas un des match-up clés de cette rencontre. Donc ça va être vraiment important. Je vais répondre à la question de Général DX. Attends, hop. Alors, Willy, en tant que représentant de l'Occitanie, je serai des vôtres quand Télé-Actu délocalisera bientôt peut-être. C'est pas encore prévu. Et après, on l'a dit, non, on n'est pas encore sûr, mais si on se délocalise, a priori, c'était Lyon qui remportait le plus de suffrages. Donc je disais quoi on va finir avec les questions. Ah oui, j'allais répondre à Général DX. Les équipes seraient-elles capables de faire exprès de perdre Washington et Miami, son concurrent pour le premier choix? On le rappelle, le tanking NFL n'existe que au, mais je pense que c'est pareil pour l'NBA parce que les gens ont de l'amour propre, il n'existe qu'au stade administratif, au niveau des bureaux. C'est-à-dire que c'est le propriétaire et le general manager qui tank, et qui peut-être tank en envoyant leurs meilleurs joueurs ailleurs, en échangeant un tel ou un tel ou un tel. Les coachs et les joueurs ne tankent pas parce qu'ils bossent pour... ils sont observés tout le temps. Donc, c'est déjà assez précaire de jouer en NFL. Ils ne peuvent pas se permettre de faire exprès parce que s'ils ont l'air mauvais sur la bande, personne ne les signe derrière, ils n'ont plus de boulot, et ainsi de suite. Donc ça se joue beaucoup au-dessus. Lyon, dit Benjamin. Oui. Moi, je vois qu'il y a du monde. On va essayer, je vous le dis, ça fait des années qu'on parle de délocalisation, on n'y est pas encore, mais on aimerait bien en faire une. Quand on voit comment on s'est éclaté au Hard Rock Café au début de l'année, c'est vrai que ça donne envie. Après, il faut trouver à quel moment on le fait, c'est pas évident, il faut déplacer l'équipe, il faut déplacer le matos, voilà, c'est des problématiques... à gérer. Les questions, donc n'hésitez pas à envoyer. Après les... attendez, je vous ai pas donné les pronos, je vous donne un petit coup de pronostic. Allez, c'est le moment où vous allez tous dire « Ah là là, il a pronostiqué mon équipe, on va perdre. » Ce qui statistiquement ne doit pas être totalement vrai, hein, je le précise. Donc, les pronostics. Seattle-Cleveland, donc Browns-Seahawks, je vais dire les Seahawks. Chiefs-Texans, je vais dire les Chiefs. Dolphins-Redskins. Dolphins Redskins. C'est qu'est-ce qui nomme le titulaire pour les Redskins? Je vais dire les Redskins. Vikings Eagles. Je vais dire Eagles parce que c'est un gros match. et donc Kirk Cousins va avoir du mal. Jacksonville Jaguars Saints, je vais dire les... Ça, c'est à Jacksonville. Je vais dire Jacksonville parce qu'il faut bien que les Saints en lâchent. Ravens Bengals, on va dire les Ravens. Les Rams contre les 49ers. Je crois que j'ai dit les Rams pour les pronostics du podcast, mais je dirais bien les 49ers, surtout avec l'absence de Todd Gurley. Cardinals Falcons, je vais quand même dire les Falcons, on va dire que Dan Quinn sauve sa tête. Denver Tennessee, je dis Tennessee. Jets Cowboys, les Cowboys, même si Sam Darnold est de retour. Les Chargers contre les Steelers, on va dire les Chargers, parce qu'ils sont quand même plus complets à l'heure actuelle. Et le match dans la nuit de lundi à mardi, ce sera Green Bay contre Détroit. Évidemment, Green Bay qui est mon favori au Super Bowl. Donc, je donne les Packers. Alors, il est 18h54, il y en a qui réclament Bordeaux aussi. Pourquoi ne pas déménager dans une ville moins chère? Bah oui, mais non, encore une fois, là, l'idée, c'est vraiment d'amener toute l'équipe, donc c'est plus compliqué. Je suis prof, tu délocaliserais dans un collège de l'heure où on a une web radio, dit Christophe. Ah, mais envoie-nous un mail, Christophe. Alors, je sais pas si j'arriverai à amener les autres dans l'heure, mais moi, j'aime bien la Normandie, donc ça dépend où dans l'heure. J'ai commencé ma carrière à Évreux, tu sais, donc je connais bien l'heure. Bordeaux ou Dax? Dax, c'est un peu plus précis. Bordeaux, c'est pas mal. On essaye de prendre quand même, je pense que si on délocalise, on essaiera de prendre quand même des villes où les gens peuvent à peu près venir en transport s'ils sont pas trop loin. Enfin, voilà, je sais pas, couper la France en quatre et puis, enfin, on va essayer de faire des trucs comme ça. Mais voilà. Mais donc, ouais, Christophe, envoie-nous pour ton histoire de web radio et tout. Je te garantis rien, mais, ah, ou Neubourg, ça marche. Ouais, je vois déjà des gens qui nous proposent de nous loger et tout, c'est sympa. Lyon, c'est le top. Ouais, Lyon, c'est bien. J'ai découvert il y a... Attends, je ne dis pas une bêtise. Il y a un peu moins d'un an, c'est pas mal. Rennes, ouais, ça a l'air sympa. Jamais mis les pieds aussi. Vendez-moi vos villes. À Bordeaux, on a une radio hospitalière où on parle du sport bordelais et j'y parle un peu de NFL, donc je peux en parler. Il y a un micro. Mais alors, radio hospitalière, ça veut dire que c'est dans un hôpital? C'est simple, efficace, évident. Nantes, bah oui. Strasbourg, c'est bien aussi. J'aime bien aussi. Ils vont pas trouver si vous venez chez moi. Bon, en tout cas, c'est gentil. Ouais, Lyon, bien manger, dit Bertrand. Raphaël est d'accord pour la délocalisation, demande l'AMSI. C'est un des points d'achoppement, dirons-nous. Hein. Il va falloir négocier là-dessus. Les cotes de la semaine, c'est avec Unibet. Il nous reste encore un peu d'émission. Ne quittez pas parce qu'on a l'indice encore pour. On a encore un indice à donner pour le joueur mystère, mais je vais vous donner les meilleures cotes Unibet avant. Évidemment, on va parier sur les matchs. Il nous reste 4 minutes, il faut que je me dépêche. J'ai encore un fromage à caler là-dedans. Il y a un field goal qui a été raté pendant ce temps-là. Les cotes, il y a pas mal de choses intéressantes. Oh bah oui, alors là, j'en ai une évidente. Je crois qu'ils vous l'ont donné d'ailleurs dans l'émission, mais elle m'intéresse aussi parce que pour moi, cette équipe est favorite. Donc je ne sais pas pourquoi Unibet est assez sympa pour vous la donner un outsider. 1,82, on a cette équipe de Seattle qui est favorite. Oh bah regardez, on en a une autre très très belle en dessous. Il y a des belles cotes hein, cette semaine. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Unibet, je vous ai mis le lien. Cette cote-là, elle est belle aussi, parce qu'on a plus de 2. J'ai dit que c'était border pour le match, mais honnêtement, les Saints à 2,05, il vaut mieux jouer ça que jouer les Jaguars. Donc je vais dire les Saints à 2,05, et puis derrière, bah regardez. C'est bien parce que ils ont été sympas là, Unibet. Ils m'ont mis tous mes favoris en outsider. Donc du coup, ça fait des belles cotes. Qui a envie de jouer les Eagles à 2,30 contre Minnesota? Excusez-moi. Ça se joue bien. Ça se joue très bien. Et donc là, on a un combiné qui, à mon avis, n'est pas si dingue que ça. Là, on n'est pas dans le YOLO. Hein. Et donc, si vous misez 10 euros, ça vous fait un combiné à 85,81 pour ce joli combiné avec des équipes qui sont quand même plutôt bonnes, Saints, Eagles et Seahawks. Donc là, franchement, on est pas mal. 85 euros de gain potentiel. Donc ça vous fait 42 et des poussières si vous misez que 5 euros. On est plutôt très bien. Je regarde un petit peu les marqueurs de touchdown. On a dit que c'était quoi? Allez, c'est Rams 49ers, le gros match. Donc je vais essayer de trouver qui marquera un touchdown. Ou qui marquera en premier? Qui marquera en premier? C'est un peu dur. Hein. C'est un peu pile ou face. Je suis en train d'essayer de trouver. Hop, qui marquera 3 touchdowns. Ah oui, vous pouvez, si vous voulez des grosses cotes, double marqueur, double chance. Hop là, voilà. Alors, vous avez des cotes, des paris différents. Vous pouvez parier aussi sur une double chance, c'est-à-dire marqueur de touchdown, Brown ou Kupp, Brown ou Kittle, Brown ou Cooks, Kupp ou Kittle. Donc, par exemple, Kupp ou Kittle, si vous pensez que soit Cooper Kupp, soit George Kittle vont marquer, la cote est à 1,35. C'est pas mal. C'est des bonnes petites cotes, ça. Double chance, marqueur de touchdown. Ça, c'est pas mal. Et si vous vous sentez vraiment en verve, vous pouvez parier sur qui marquera 2 touchdowns. Et donc là, vous avez un Cooper Kupp à 5 ou un George Kittle à 6,25. Ça, c'est des cotes sympas. Mais la double chance, marqueur de touchdown, là, Kupp ou Kittle à 1,35, c'est plutôt pas mal, ça. C'est plutôt pas mal. Allez, les questions pour finir. Ah ben non, il est 58. Alors déjà, je vais vous donner l'indice. Donc, on a dit MVP, 6 maillots, sur la pochette, comme Brady, Iceman avant le Iceman, et on termine avec ESPN. ESPN, évidemment, comme la chaîne, c'est l'indice sur le joueur mystère. Je vous remets l'adresse dans le chat, concours@touchdownactu.com, si vous voulez envoyer votre réponse. Je vous remets aussi le lien pour Tipeee, si vous voulez nous soutenir. Évidemment, il est 18h59, je vais vous donner un petit bout, hop là, de fromage. Je vais me donner. Voilà ça. Oui, j'ai goûté Gus au Stilton. Je suis pas en caleçon, Loïc. C'est un short, mais il est un peu court quand je suis assis, du coup. J'ai pas ramené fromage anglais, Nicolas. Alors, c'est un Salers. Je sais pas si on va bien voir. Hop là. Youp. L'éclairage est bon. Voilà. C'est un Salers. Alors, fromage au lait cru. Un poil frais à mon goût. C'est pas mauvais, mais je m'en gaverai pas. Mais en fait, j'essaie des nouvelles choses depuis, depuis que je fais cette émission et que je dois manger plein de fromage tout le temps. J'aime bien, mais c'est pas le truc avec le plus de caractère. C'est pas mal, mais peut-être pour en accompagnement de certains trucs, ou au moins avec une bonne baguette. Donc c'est bon, mais je vous le conseille. Si vous avez des conseils à donner, n'hésitez pas en tout cas. Mais bon, après, il sent bon ce Salers. Mais voilà, le Salers, c'est le fromage de la semaine, n'hésitez pas si vous avez des suggestions. J'ai vu, donc, il est tout petit. C'est parce que j'en ai déjà mangé un peu. Camembert, toujours indétrônable. Oui. Ouais, moi, Camembert, Roquefort. Je suis quelqu'un de classique. Osso Irati. Ouais, ça doit être mon top 3, je crois. Je sais plus ce que j'avais mis l'an dernier, mais ça en fait partie. Le Brie, bah oui, un bon Brie de mots. Yannick, il a raison. En plus, je suis Briard. J'ai pas le droit de pas dire Brie dans mon classement. Donc non, oui, après il y en a tellement, honnêtement. Le Mondor, oh, Mondor, Bertrand, je m'en suis fait un cette semaine. Moi, c'est ça, je m'en suis fait un le lendemain de mon retour de Londres, je crois. Ça, c'est bon. La fondue aussi, oui, non mais voilà, il y a toujours des... Oui, il y a Nicolas qui dit qu'il faudra faire mon top et flop pour les fromages. J'avais fait un top 10 pour le Super Bowl l'an dernier, je crois. Et elle est là alors, la cinquième interception? Mais oui, elle est là! Et ben voilà, c'est comme ça qu'on va se quitter. Je pense que là, on peut pas faire mieux. Le comté, ils vont un comté affiné 18 mois. Oh là là, vous me donnez faim. Oui, alors autant je vous ai dit j'ai des vertiges, autant j'ai l'impression que je peux manger comme une vache depuis 2 jours. Donc je ne sais pas comment je fonctionne, mais en tout cas, c'était pas mal. Voilà donc, regardez, je suis pas en caleçon, c'est un short, je le dis à Loïc. Voilà, je vais faire un tour sur moi-même, je vais défiler et je vais aller éteindre cette émission. Je vous dis à bientôt. Comment ça, je suis enceinte? Mais non, je suis pas enceinte. En plus, j'ai perdu du poids. Ouais, ceux qui me voient à l'écran depuis des années voient que j'ai perdu du poids, j'ai jamais été aussi mince quasiment, hein. Donc bon, c'est du freestyle cette fin d'émission, vous l'avez vu, c'est n'importe quoi, il est 19h01, on finit en retard, on parle de mon poids, mais je tiens à le dire, j'ai perdu quasiment 8 kilos par rapport à l'époque où je faisais d'autres émissions en vidéo, mais oui, non, comment ça on voit que je vieillis? Eh, vous êtes dur. Bon, c'est vrai, en vrai c'est vrai, si vous regardez les premières vidéos qu'on faisait, mais j'avais plus de joues, moins de barbe et plus de cheveux. Voilà, comme on peut résumer, mais je sais pas, enceinte, mais en tout cas les vertiges c'est pas agréable, je vous le conseille pas. On me dirait pas que tu as pris du poids. Non, j'en ai perdu du poids, Stanislas, enfin, j'ai perdu quasiment 8 kilos. Allez, on va arrêter de parler de mon poids parce qu'on en a pas grand chose à faire dans les faits. Vous avez vu, j'ai même des lunettes, comme quoi je vieillis maintenant. Merci beaucoup à tous. Les Panthers viennent de gagner, c'est fin de match officiel évidemment. Bon match à tous, c'est parti, là il est 19h02. Arrêtez de me regarder et parler de mon poids, vous avez bien mieux à faire. Il faut aller regarder les matchs NFL. Bonne soirée à tous, ciao ciao.
Acast powers the world's best podcasts.
Here's a show that we recommend.
It's the question that's on everyone's mind. How do you live a good life? Is it about work, health, or relationships? What about happiness, meaning, and money? What really matters? And how can you dramatically improve all of these things? These are the questions we explore every week on the top-ranked podcast, Good Life Project, hosted by award-winning author and perpetual seeker, Jonathan Fields, which also happens to be me. Every week, I sit down with world-renowned researchers, experts, and scions of art and industry on the Good Life Project podcast. This week, in fact, we're sharing a fantastic conversation with the author, Elizabeth Gilbert, about a single practice that changed her life. Listen to the Good Life Project podcast wherever you get your podcasts. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.